H-I-S.
Que tout s'efface.
T-O-I-R-E.
Dans l'histoire et moi, vous êtes l'acteur de votre passé, vous témoignez de votre histoire familiale et un historien vous répond en replaçant cette histoire intime dans la grande histoire.
Je m'appelle j'ai 30 ans, je vis à un petit village de 650 habitants. Je travaille dans le bâtiment, je suis peintre intérieur.
Et dans cette campagne, il y a aussi des usines.
Et dans cette campagne, voilà, il y a une grosse usine surtout. Il y a eu une grosse usine à l'époque qui tourne toujours, qui fabrique des gazinières. Donc moi, mon père a travaillé à l'intérieur jusqu'en 1980, date à laquelle il est décédé.
Et votre père est mort à l'usine?
Oui, mon père est mort à l'usine, oui.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Une crise cardiaque. Il avait eu quelques alertes, ça avait été mal pris en compte, quoi. Et puis à l'époque, il fallait travailler, quoi. De se mettre en arrêt de travail comme ça, je pense qu'on était vite montré du doigt à l'époque, quoi. Il fallait pas. De toute façon, on était neuf à la maison, donc il fallait travailler, il fallait que l'argent rentre, quoi.
Les images du monde ouvrier sont souvent liées à l'activité urbaine ou aux banlieues. Pourtant, après la Deuxième Guerre mondiale, les usines s'installent à la campagne et les paysans s'enterrent, les saisonniers vont former le gros du bataillon de ces entreprises. C'est le cas de la famille de installée en Côte d'Or, à exactement. Aujourd'hui, est peintre en bâtiment. L'usine, c'était pas pour lui. Comment a vécu sa famille dans la cité ouvrière? Nicolas Renailly, sociologue, réagit à partir des souvenirs de.
J'ai eu mon grand-père, mon arrière-grand-père, donc 4 générations qui ont travaillé dans cette même usine. Mon père était responsable, il était chef d'équipe au point de vue montage, tout ce qui était gazinière à l'époque, une marque très réputée.
Et votre grand-père?
Et mon grand-père était monteur, donc sur des chaînes de montage. J'aimerais bien essayer de comprendre le pourquoi de... Qu'est-ce qui a incité les enfants de mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à mon père à aller travailler là-bas, quoi. Le pourquoi, essayer de comprendre ça.
Ouais, surtout ce qu'il faut voir par rapport à ces lignées ouvrières, c'est le contexte de précarité qu'il y a autour de cette usine. C'est-à-dire que toutes les familles qui arrivent là, qui viennent travailler à l'usine, c'est parce qu'elles sont, c'est des gens qui sont journaliers à la campagne, qui vendent leur force de travail au jour le jour et qui n'ont pas une stabilité de l'emploi. Ça, c'est valable jusqu'au début du XXe siècle, quoi, à l'époque où la famille de arrive à. Et les cités, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire quand même pour le contexte, c'est-à-dire que c'est un certain confort. Dès qu'il y a l'eau courante qui arrive en France, dans les campagnes, elle arrive dans les cités en priorité, l'électricité pareil, etc. Et puis, ce qui va avec aussi, c'est une sociabilité ouvrière. Donc dans un milieu très rural, des familles qui étaient plutôt en dehors du monde de la paysannerie, c'est-à-dire que c'était des gens qui n'avaient pas de biens, qui n'avaient pas de propriété, etc., pouvaient trouver à se sédentariser et donc... à envisager des jours meilleurs pour la suite. Et c'est un fait que l'usine offrait cette possibilité d'avoir des jours meilleurs.
Et est-ce que ces cités à la campagne sont bâties un peu de la même manière que les cités du nord de la France, autour de Roubaix ou dans la banlieue parisienne?
C'est exactement l'histoire du paternalisme industriel, quoi. C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on trouve à Longwy, enfin, dans tout l'est de la France, mais aussi à Clermont-Ferrand avec les Michelin. C'est vraiment ces histoires-là, quoi. C'est-à-dire, c'est une lignée d'aristocrates ou de grands bourgeois qui vont investir dans l'industrie et qui vont créer un univers un peu à eux. Alors, un peu à eux du point de vue patronal, mais du point de vue des ouvriers, c'est aussi un univers qui appartient aux ouvriers.
Et vous avez grandi autour de cette usine? Comment ça se présentait?
Eh ben, l'école se situait à une centaine de mètres de l'usine, 100-200 mètres de l'usine. Oui, on a grandi autour de l'usine. On voyait les bus de ramassage qui passaient récupérer dans les villes aux alentours les ouvriers pour les emmener. Donc ça, tout ça, on y a vu. L'usine s'adaptait par rapport aux horaires de l'école. Donc à la sortie de l'école, les ouvriers sortaient aussi. Donc c'est là que j'ai des souvenirs par rapport à mon père qui me nous remonte à la maison.
Parce que vous habitiez donc juste à côté de l'usine, vous étiez logé par l'usine?
On était logé par l'usine, oui, tout à fait. Donc on était dans des... Ils avaient fait fabriquer dans les années 1930 des cités. Enfin, ce qu'on appelle nous des cités, c'est des grosses maisons où il peut recevoir jusqu'à 4 familles avec un petit terrain autour. Au début, on était dans un petit hameau à côté de qui s'appelle à 1 kilomètre à côté. On était dans une cité aussi, pareil. Et jusqu'au jour où ils ont vendu ces cités-là, donc il a fallu soit acheter ou soit partir. Mon père était pas prêt à acheter à ce moment-là. Donc on est parti dans d'autres cités à donc dans le village. On a pu rester en location quelques temps et après il a fallu acheter. Donc oui, on a grandi à côté de l'usine.
Quand vous étiez petit donc dans cette cité, est-ce que vous aviez des contacts avec des enfants plutôt de paysans, ou est-ce que vous étiez vraiment dans votre bulle?
Oui, je pense qu'on était dans notre bulle, on était entre nous, chaque petit quartier là où il y avait les cités, on était une petite bande et puis on se réunissait régulièrement sur le terrain de foot entre jeunes de cités différentes, quoi. Même si on était à 500 mètres l'une de l'autre, mais voilà, il y avait des derbies, surtout au niveau foot, entre nous.
Et vous étiez plutôt heureux d'appartenir à cette cité, dans ce milieu rural, ou vous auriez eu envie de grandir plutôt dans une famille de paysans? Vous étiez fier de ça?
Oui, non, mais heureux, oui, très très heureux de vivre dans nos cités.
Donc en tout, il y avait combien de personnes alors dans ces cités?
Oui, il y avait une bonne centaine de personnes, et je pense qu'il y avait entre une bonne quarantaine d'ouvriers, parce qu'après il y avait différentes cités, il y avait aussi les cités, la rue de Lyon, c'était un petit peu la cité des chefs, quoi, la cité des comptables, des chefs d'équipe, etc. Alors, c'est la famille y a été parce qu'ils n'avaient pas le choix. À l'époque, il fallait, s'ils voulaient continuer à être locataires, il fallait aller dans cette cité-là. Mais il y avait aussi c'était le paternalisme qui faisait ça, qui marquait un petit peu les différents endroits en fonction, qui les marquait socialement, quoi.
En fonction du travail qu'on avait dans l'entreprise.
Voilà, exactement.
Et en tout, donc, il y avait combien de personnes qui travaillaient dans cette usine?
Alors, le maximum qu'il y a eu, c'est dans les années 60, il y avait 400 personnes. Et actuellement, il y a donc deux entreprises sur le village. Une centaine d'ouvriers dans l'usine de cuisinière qui a repris, et puis un peu moins dans l'autre usine qui fait des câbles pour l'automobile. Donc l'usine Coste, on peut la nommer puisqu'elle a coulé depuis bien longtemps, puisqu'elle elle a été rachetée en 72. En gros, ils fabriquaient des cuisinières qui avaient un côté rustique, qui était toujours à base de fonte, etc. Et avec dans les années 60, c'est le marché de la consommation de masse, avec notamment toutes les cuisinières italiennes, etc., qui arrivent, qui sont très légères, etc., de moins bonne qualité. Mais du coup, Coste ne peut plus tenir la rampe et cède l'entreprise pour le franc symbolique, à la condition, et là on voit bien le paternalisme, à la condition que l'entreprise qui va racheter reprenne l'ensemble des ouvriers. Et c'est ce qui va être fait avec qui deviendra très rapidement décide de tout vendre. Donc c'est ce que racontait tout à l'heure. Ils vendent les cités, et puis 2-3 ans après avoir vendu les cités, ils finissent par laisser tomber l'usine. Et donc, en 81, il y a 300 familles ouvrières qui se retrouvent brutalement au chômage.
Mais est-ce que ça participe, je dirais déjà à l'époque, d'une certaine forme de délocalisation à la campagne? Aujourd'hui, on parle de délocalisation, je sais pas, dans les pays de l'Est ou en Chine. Est-ce qu'il y avait déjà une volonté donc de délocaliser à la campagne parce que la main-d'œuvre était moins chère?
C'est pas tout à fait une logique de délocalisation. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus à relier à une opportunité pour une lignée patronale. Donc, la famille Coste est arrivée juste après la Révolution, donc c'est très très vieux, quoi.
Mais en fait, parce que la famille était originaire de cette région, donc c'est ça, voilà. Elle s'est donc développée dans cette région.
Elle s'est développée dans cette région, et c'était, j'imagine, aussi une famille qui avait été... L'un des membres de la famille Coste avait été maire de Chalon-sur-Saône, donc une famille quand même avec une certaine notabilité. Mais ce qu'ils arrivaient à faire, c'était arriver à atteindre... C'était des grands bourgeois, donc ils n'étaient pas aristocrates, et ce qu'ils arrivaient à faire... C'était pas se mettre une particule, mais presque. C'est-à-dire qu'ils avaient un château, une grande maison bourgeoise. Ils avaient des relations au 19e siècle qui étaient de l'ordre de relations seigneuriales avec les ouvriers de ce qui n'était pas encore une usine, ce qui était plus une fabrique à l'époque. Et c'est par exemple cette famille qui a fait construire l'église du village, cette famille qui a fait construire les écoles, etc. Donc c'était plus une notabilité, une reconnaissance de leur statut local, quoi. C'était pas des aristocrates. J'imagine qu'ils auraient bien voulu l'être, et c'était un moyen pour eux de le devenir.
Donc vous avez 30 ans aujourd'hui, vous ne travaillez pas dans cette usine?
J'ai pas continué la lignée, non. J'ai pris une autre voie, donc celle du bâtiment. Je me suis pas posé la question par rapport à une suite logique par rapport à ce travail-là. C'est vrai que c'est sur place, il y a peut-être des avantages, mais je préfère faire 30 km pour aller travailler que d'être sur place comme ça. C'est pas... Je pense pas pouvoir supporter de travailler en usine en intérieur, quoi.
J'avais l'impression qu'il voulait réagir, Nicolas.
Oui, en fait, c'était juste pour resituer un petit peu la trajectoire de sa famille dans une trajectoire plus large, qui est celle de la diversification du monde ouvrier. C'est-à-dire que des usines comme celle Coste Il y en avait dans la campagne française un peu partout, même jusqu'en Mayenne, etc., à Port-Briey. C'est aussi la figure d'un monde ouvrier très structuré jusqu'aux années 70, et qui, à partir des années 70, on a l'impression que les pères de famille, enfin dans les familles, les parents, anticipent un petit peu la crise qui apparaît en 74, en essayant de diversifier le devenir des enfants. C'est pour ça que dans la famille de... Donc c'est une famille très nombreuse, puisqu'ils sont neuf, il y a 8 frères et sœurs, il n'y en a pas un parmi les garçons qui va se spécialiser, qui va essayer de chercher à avoir une qualification dans le monde industriel. Au contraire, comme si votre père vous avait poussé un petit peu à aller voir un petit peu ailleurs. Comme s'il sentait, lui, que ce monde-là était un petit peu en train de
certainement,
de
peut-être, ouais. Mmh. Peut-être, ouais.
Nicolas Renaï est sociologue. Il a écrit sa thèse sur vivre et travailler au pays à partir d'un groupe d'ouvriers dans un village industriel bourguignon. Merci à France Bleu Bourgogne aussi qui était avec nous pour l'enregistrement de cette séquence.